D'abord, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à cette invitation, comme chaque année, pour la rentrée des catéchistes. Une journée où on se retrouve pour prier ensemble, pour réfléchir sur tel ou tel thème qui nous concerne au premier chef, dans notre mission de transmettre la foi, et pour se retrouver fraternellement aussi, en particulier au moment du repas. Oui, je précise qu'on oublie toujours, c'est dommage, mais dans le propre du diocèse, le 10 octobre, c'est l'anniversaire de la dédicace de la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Ça veut dire que dans la ville de Bayonne, dans la cathédrale, c'est solennité, mais ailleurs dans le diocèse, c'est fête. Donc, on doit prendre les lectures du commun de la dédicace, avec l'évangile de Zachée, qui est très bienvenu aussi, et je pense le texte de l'Apocalypse, chapitre 21, je pense, et puis c'est en blanc. Alors, je ne sais pas ce que vous avez prévu, les prêtres, vous avez pris des étoiles blanches ou vertes. On s'arrangera, hein. Mais vous savez, il y a un propre du diocèse qu'on regarde chaque fois que le matin on voit ce qu'on célèbre, et dessus il y a inscrit aujourd'hui au 10 octobre la dédicace de la cathédrale de Bayonne, c'est important. Très bien, alors donc on me demande de vous parler du kérigme. Je me souviens que quand je suis arrivé dans le diocèse, dans ma première lettre pastorale, intitulée « La charité du Christ nous presse, l'urgence de la mission », il y a tout un paragraphe consacré au kérigme. Et je me souviens aussi qu'on me reprochait d'utiliser un mot barbare que personne ne comprenait. C'était en 2010. Ça va faire 13 ans. Et en fait, c'est un mot qui appartient à la tradition de l'Église, qui est un mot tout à fait traditionnel dans l'Église. Et vous aurez remarqué sans doute que le pape François l'utilise beaucoup, en particulier dans sa première exhortation apostolique, post-synodale, en 2013, où il parle de la joie de l'Évangile, où il parle principalement du kérigme. Ensuite, dans l'exhortation apostolique post-synodale aussi, sur la place des jeunes dans l'Église, Christus vivit, le Christ est vivant, il en parle aussi beaucoup. Je crois que c'est un mot qui n'est pas à la mode, mais qui doit revenir dans notre vocabulaire, et plus que dans notre vocabulaire, dans notre manière d'annoncer l'Évangile et de transmettre la foi dans un monde où la foi s'est un peu attiédie. Que veut dire le mot kérigme ? C'est un mot qui vient du mot grec kérigma, qui veut dire en gros proclamation. Pas compliqué, non ? Et ça va désigner petit à petit le cœur de la proclamation chrétienne. On le trouve déjà, c'est important parce que ça nous dit notre mission, dans la finale de l'évangile de Saint-Marc. Lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » C'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont des paroles très fortes de Jésus. Allez proclamer l'évangile à toute la création. Proclamer. Kérigme. La proclamation de l'évangile à toute la création. C'est le kérigme. Celui qui croira sera baptisé. Celui qui croira et sera baptisé, pardon, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Alors vous comprenez bien sûr que ça veut dire celui qui refusera de croire quand bien même l'évangile lui aura été dûment proclamé. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes depuis 2000 ans et encore aujourd'hui qui ne croient pas sans faute de leur part. Qui ne croient pas parce que l'évangile ne leur a pas été annoncé. qui ne croient pas parce que l'Église ne les a pas atteints. Peut-être sans faute de la part de l'Église, mais peut-être c'est notre faute à nous, si certains autour de nous ne croient pas. Parce qu'on n'a pas eu l'audace de proclamer l'Évangile selon le commandement de Jésus, dans ce fameux mandat missionnaire. Dans cette première lettre pastorale, je disais que dans la prédication de l'Église, il y a deux moments. Il y a le moment du kérygme, on va y insister d'abord, et il y a le moment de ce qu'on appelait en grec la didaké, c'est-à-dire l'enseignement. Le kérygme pour susciter la foi et la didaké pour former la foi. Ce matin, dans l'office de lecture du commun de la dédicace, on lisait une très belle lecture de saint Augustin qui dit ceci. Lorsque les croyants sont catéchisés, baptisés, formés, c'est comme s'ils étaient sciés, ajustés, rabotés par le travail des charpentiers et des bâtisseurs pour dire que les croyants sont les pierres vivantes ou les pièces de bois qui nous permettent, en les assemblant, de construire l'édifice qu'est l'Église. Hein, vous connaissez l'expression de Saint-Pierre qui dit que nous sommes des pierres vivantes pour l'édification d'une maison spirituelle qu'est l'Église. Mais il emploie ces trois termes, catéchiser, baptiser, former. Évidemment, dans l'Église ancienne, on commence par catéchiser les païens par l'annonce du kérygme ou la proclamation de l'Évangile. C'est la même chose. Et on va dire ce que c'est, le cœur de l'Évangile, qui peut susciter l'acte de foi. Une fois que je crois par ce que j'ai entendu, je suis baptisé. Et c'est là que je reçois le don de la foi comme un don permanent. Et une fois que je suis baptisé, il faut que je sois formé. C'est la didaké, c'est l'enseignement, c'est la catéchèse, c'est l'accompagnement des baptisés pour qu'ils deviennent des adultes dans la foi. On le voit aussi, d'une certaine manière, dans la finale de l'évangile de saint Matthieu, qui est une autre manière plus complète que chez saint Marc de dire le mandat missionnaire du Christ, au jour de l'Ascension, chapitre 28, c'est vraiment la fin de l'Évangile. Quand 11 disciples se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous, et quand ils le virent, ils se prosternèrent. D'aucuns cependant doutèrent. S'avançant, Jésus leur dit ces paroles, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. » les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Vous avez entendu ? On reprend exactement les termes de saint Augustin, où saint Augustin reprend ces trois éléments du mandat missionnaire du Christ dans saint Matthieu. De toutes les nations, faites des disciples, catigez, catéchisez, proclamez l'Évangile. Susciter l'acte de foi. Le disciple, c'est celui qui s'attache à un maître qui s'appelle Jésus-Christ dans la foi. Baptisez, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Formez, apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai prescrits. Voyez ? Kérygme, baptême, enseignement, didaké, formation. Jusqu'à devenir des adultes dans la foi. C'est un long chemin, c'est un très long chemin qui dure toute une vie. Vous voyez, nous, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui n'est plus un monde de chrétienté. Dans un monde de chrétienté, on baptise et on fait le catéchisme. Les gens sont baptisés tout petits et on les catéchise. C'est ce que vous faites et c'est votre mission. Mais vous avez bien compris aujourd'hui que la plupart des enfants qui viennent au catéchisme, la plupart même de ceux qui sont encore baptisés, ne sont pas initiés à la foi. Ils ne sont pas formés dans la foi. Ils n'ont même pas... Parce que... Je fais une petite parenthèse. Quand est-ce que nous recevons le don de la foi? Au jour du baptême. La foi, c'est un don de Dieu qu'on reçoit au jour du baptême. Que ce soit après, comme pour les catéchumènes adultes, une première catéchèse, c'est-à-dire une proclamation de l'Évangile, c'est-à-dire le kérigme, ou que ce soit quand on est tout petit, c'est au baptême que l'on reçoit le don permanent de la foi. On appelle ça une grâce sanctifiante, qui nous sanctifie et qui nous relie à Dieu, comme on va le dire, d'abord par l'intelligence, et ensuite par toute la personne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de baptisés qui ont reçu le don de la foi, mais qui ne croient pas. La foi, c'est un don de Dieu qui a été infusé dans notre âme au jour du baptême quand nous étions tout petits. Mais s'il n'y a pas une catéchèse qui commence par le kérigme pour susciter l'acte de foi, ben on aura des gens baptisés qui ne sont pas croyants. On dit aujourd'hui, moi je suis croyant, pas pratiquant. Il faudrait plutôt dire, moi je suis baptisé, pas croyant. Vous voyez ? Et on peut se poser la question pour nous-mêmes qui sommes baptisés. Est-ce que nous croyons vraiment ? Lorsque les parents, je le dis toujours, mais c'est très important, présentent leur enfant au baptême, le ministre de l'Église les interroge. Avant d'entrer dans l'Église, parce que symboliquement, l'Église, bâtiment, c'est le symbole de l'Église, communauté des croyants. Et à l'entrée de l'Église, il lui dit « Que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» Que demandez-vous à l'Église de Dieu ? Alors aujourd'hui, le rituel permet toutes sortes de formules plus ou moins heureuses. Il y a une formule rituelle qui est très belle, très concise, qui a traversé les siècles et qu'il faut toujours préférer. Ils répondent « La foi !» Que demandez-vous à l'Église de Dieu ? La foi ! Qu'est-ce que l'Église peut donner aux hommes ? La foi ! Le don de la foi ! Et le ministre de l'Église renchérit et dit « Et que procure la foi ?» Et on répond « La vie éternelle !» Vous rendez compte l'enjeu de ce don de la foi que l'on reçoit au jour du baptême pour la vie éternelle, mais entre le don de la foi et la vie éternelle, il se passe tout un temps. Et si la foi ne devient pas un acte de croire vraiment, qu'en est-il de ce don que j'ai reçu ? Vous voyez ? Or aujourd'hui, nous sommes dans un monde où beaucoup de baptisés ne sont pas croyants. Et de plus en plus de nos contemporains ne sont pas baptisés. Et nous continuons à catéchiser, former la foi qui n'existe pas. Qui existe à l'état latent dans le cœur de l'homme ou qui n'existe pas parce qu'on n'est pas baptisé. Il faut commencer par le kérigme. Il ne faut pas d'abord donner une morale aux gens. Vous voyez le sens ? Catéchiser, baptiser, former. Former, c'est-à-dire aussi que la foi devient un mode de vie. Et que l'Évangile est une grammaire pour la vie. Mais on commence, nous, par donner des commandements à des gens qui n'ont pas la foi. Au sens où on ne croit pas. Parce qu'ils sont baptisés ou parce qu'ils ne sont pas baptisés, a fortiori. Il faut commencer par le kérigme. Il faut commencer par proclamer l'Évangile. Et quel est le kérigme ? Quel est le cœur de la foi chrétienne ? Quand on regarde l'Évangile, il y a d'abord le kérigme de Jésus, et il y a le kérigme des apôtres. Le kérigme de Jésus, il est résumé au tout début du ministère public de Jésus, c'est-à-dire c'est la proclamation de Jésus. Qu'est-ce que Jésus proclamait ? Quel est le cœur de la proclamation de Jésus qu'il a développé tant et plus dans son ministère public ? C'est dit au chapitre Saint-Marc, au tout début de son évangile, chapitre 1, versets 14 et suivants. « Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée proclamant l'évangile de Dieu et disant « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Ça, c'est le cœur de la prédication de Jésus. Et c'est le kérigme de Jésus, c'est sa proclamation. C'est le noyau de sa proclamation. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile, parce que le royaume des cieux est tout proche. Il est tellement proche que c'est lui le royaume des cieux. Et l'évangile, c'est lui. L'évangile de saint Marc commence précisément comme ça. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, ce qui veut dire commencement de l'évangile qui est Jésus-Christ, fils de Dieu. L'évangile, c'est une personne. Et Jésus, le cœur de sa prédication, c'est de dire « Les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu est tout proche, il est là, devant vous. Convertissez-vous et croyez l'évangile. Cessez de croire aux idoles. Détournez-vous de vos péchés, dans lesquels vous êtes prisonniers et esclaves, et adhérez à moi, qui suis l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut. » Mais les apôtres, ils sont allés plus loin, parce que Jésus-Christ, comme dit saint Paul, je n'ai voulu savoir parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié est donc victorieux de la mort et du péché par la résurrection. Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Ça, c'est le kérigme des apôtres. Rappelez-vous, dans les actes des apôtres, le jour de la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit-Saint. Aux apôtres et aux disciples qui sont rassemblés dans le cénacle où ils avaient l'habitude de se rassembler. Ils se sont rassemblés avec Jésus pour la dernière scène. Ils s'y sont rassemblés le soir de Pâques dans la peur parce que Jésus était mort et enterré, mis au tombeau. Et le soir même, dans ce même cénacle, Jésus, vivant, ressuscité, était au milieu d'eux et leur disait « Recevez l'Esprit Saint, tous les péchés, tous ceux à qui vous remettrez les péchés seront remis, tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. » Jésus, après 40 jours, où il est apparu, ressuscité au milieu de ses apôtres, pour continuer à les former, pour continuer à les instruire du royaume des cieux, comme le dit saint Luc au début des actes des apôtres, monte au ciel. Jésus n'est plus là physiquement. Ils sont complètement démunis, orphelins. Il leur promet seulement « Vous allez recevoir une force venue d'en haut, l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins. » Alors ils se réfugient dans ce lieu où ils ont l'habitude de se rassembler. Il y a les 11, il y aura le 12e juste avant la Pentecôte, il sera tiré au sort parmi les disciples, et il y a des disciples, hommes et femmes, de la première heure. L'Église est déjà constituée, structurée par les apôtres, parce que Jésus a fondé son Église sur ses apôtres, à qui il a donné le pouvoir non seulement de célébrer l'Eucharistie en sa personne, mais de pardonner les péchés, en deux temps, à la scène et à la résurrection, au soir de Pâques. L'Église est constituée, les apôtres structurent l'Église, il y a les disciples hommes et femmes, parmi les femmes, il y en a une seule qui est nommée, car c'est très important, c'est la Vierge Marie. Ils sont 120 dans ce cénacle, nous dit saint Luc, un peu plus loin, dans les actes des apôtres, et le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint fond sur eux, et l'Église est constituée comme une âme vivante. On pourrait dire que c'est la création de l'Église vivante. Tous les éléments sont là, mais il manque l'Esprit Saint pour qu'elle puisse être porteuse de vie, annoncer l'Évangile avec autorité, convertir les hommes au Seigneur. Pourquoi je dis ça? Dites-moi pourquoi je dis ça, parce que je suis en train de me perdre. Ah oui, voilà. Et donc, les apôtres sortent sur la place publique et Saint-Pierre commence à prêcher. Je ne vais pas vous lire l'ensemble du discours, parce que ce sont trop longs, mais l'essentiel, c'est à la fin qui résume tout ce qu'il a dit précédemment. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous, vous avez crucifié. Le cœur de l'Évangile, qu'il explicite dans son discours juste avant. Celui qui est mort et ressuscité, nous en sommes témoins, il nous a sauvés et nous en faisons l'expérience dans notre vie. Il nous a donné la vie, il a changé notre vie, il nous a libérés de notre esclavage. Écoutez la suite. verset 37 du chapitre 2 des Actes des Apôtres. D'entendre cela, la foule des gens qui étaient là, qui n'étaient pas forcément disposés à entendre l'évangile du Christ, celui qu'on avait justement crucifié, et la plupart des gens d'ailleurs n'en savaient rien. D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé, et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Et Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Vous voyez, la proclamation de l'Évangile, l'Église l'utilise pour susciter un acte de foi. Le pape à François, au cours de son voyage à Marseille, j'y étais, au cours de cette messe magnifique dans le stade Vélodrome de Marseille, qui n'avait sans doute pas accueilli le pape jamais, et une foule de chrétiens très fervents et très joyeux, qui représentaient l'Église de France finalement, il a fait une très belle homélie sur l'évangile de la visitation, et il a parlé du frémissement de Jean-Baptiste dans le sein de sa mère, au contact de Jésus qui était porté par le sein de Marie, qui venait juste de saluer Élisabeth. Et il a parlé du frémissement de la foi. D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. Ils frémissaient en eux-mêmes. Ils avaient, à travers cette annonce, ce kérigme, l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus qui est venu pour nous sauver, nous libérer. Et ils ont en face d'eux des témoins qui sont sauvés, libérés, alors qu'ils étaient prisonniers de leur peur il y a quelques instants. Eh bien, ils ont connu ce frémissement de la foi devant Jésus qui leur était annoncé. Et ils ont dit, que devons-nous faire ? Convertissez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Vous serez pardonnés de vos péchés. C'est ça le kérigme. Et on a besoin de l'entendre à nouveau. C'est la première chose que les catéchistes ont à annoncer aux enfants du catéchisme d'aujourd'hui, qui pour la plupart, pour certains, sont baptisés. La plupart des enfants qui viennent encore au catéchisme, sans doute, sont baptisés. Mais ils n'ont rien reçu pour la plupart d'entre eux. Ce n'est pas un reproche, c'est une constatation. On ne leur a même pas parlé de Jésus. Les parents, traditionnellement, c'est encore heureux qu'ils le fassent, inscrivent leurs enfants au catéchisme. Mais on ne leur a pas parlé de Jésus. Alors on va faire une catéchèse intellectuelle, cérébrale. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais pour certains de ces enfants qui n'ont rien reçu, c'est le kérigme qu'il faut annoncer. Et le kérigme, qui est le mystère du Christ mort et ressuscité, il ne peut être porté que par des témoins qui ont été libérés par la force du kérigme. Car le kérigme, le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, ce n'est pas seulement une annonce intellectuelle qui va toucher l'intelligence, mais ils avaient le cœur transpercé, qui va atteindre. C'est Jésus lui-même qui va toucher le cœur et qui va ouvrir le cœur à la conversion et au baptême. Et ensuite, on pourra catéchiser, annoncer l'Évangile. On n'a peut-être pas encore trouvé la recette, hein, je ne dis pas, mais c'est ça qu'il faut que nous comprenions toujours plus. Et pour nous qui sommes des chrétiens qui avons reçu la foi tout petit, moi je le pense, j'ai été élevé dans une famille chrétienne, j'étais baptisé, on m'a parlé de Jésus tout de suite, j'ai prié en famille, je suis allé à l'église, j'allais à la messe quand j'étais tout petit, depuis j'étais tout petit, on allait en famille, il n'y avait pas de problème et on se tenait bien à la messe. Moi j'étais un petit garçon insupportable sans doute, mais à la messe on ne branchait pas. D'abord, il y avait une religieuse qui nous regardait du coin de l'œil et puis qui était prise, nous faisait les gros yeux. Voilà. Donc, en tant que chrétienté, c'était un peu comme ça. J'ai reçu la foi, j'ai été catéchisé jusqu'au moment où je suis arrivé en sixième dans un collège catholique avec des sœurs adoratrices. C'était en 69, 68-69, donc. Appeler ces années-là, peut-être, pour certains. Et donc, le catéchisme, on faisait des coloriages. Il y avait un escargot, là, puis on mettait des petits trucs dedans. Alors ma maman me dit, « Non, mais tu vas faire ta profession de foi, et c'est ça qu'on t'enseigne. » Mais pas du tout, tu ne vas pas faire ta profession de foi comme ça. ça veut dire quoi ça? Quelle foi tu vas professer? Alors il est allé chercher dans une librairie religieuse un petit catéchisme de nos enfants qu'elle avait sans doute eu quand elle était petite, elle, où il y avait les questions-réponses. Questions-réponses. C'est magnifique, un catéchisme questions-réponses, parce que c'est un catéchisme qui est fondé sur le dialogue. C'est le dialogue. C'est le dialogue parce que c'est le Seigneur qui parle le premier, je ne peux pas l'inventer, ce que Dieu nous a révélé. Et puis, moi, je réponds. Et comme elle me faisait le catéchisme pendant qu'elle faisait son repas le soir, et j'étais assis sur mon petit tabouret blanc, j'adorais. J'avais 11 ans et demi, hein. J'adorais. Toutes ces formules-là, qui sont en fait un résumé de la Bible. Le catéchisme, c'est un résumé de la Bible. Ça touchait mon cœur. Et j'ai connu ce frémissement de la foi. C'est là, je l'ai raconté 100 fois, mais je le redis encore parce que c'est tellement fondateur pour moi, que devant mon petit coin prière, avec ma petite croix, ma petite Sainte Vierge et ma Bible qu'on m'avait offerte, qui sentait bon le papier neuf, hein, eh bien, je lisais l'Évangile. Et à cause de ce que j'avais entendu de toutes ces formules de la foi, je frémissais dans mon cœur. Et je me disais, Jésus veut vraiment que je sois son ami. J'avais rencontré Jésus. J'étais passé d'une foi héritée par ma famille, à travers des coutumes, des habitudes, des traditions, et puis une catéchèse authentique, centrée sur l'essentiel de la foi. J'étais sorti des petits escargots et des petites pétales de fleurs. Et du coup, je savais que Jésus était vivant. Et il était en train de me transformer. Et il mettait dans mon cœur le désir de devenir son ami. Et même le désir d'être prêtre, je ne veux pas vous raconter 100 fois, parce que vous le savez déjà. Mais je suis passé d'une foi héritée à une foi personnelle. Par l'annonce du kérigme, à travers aussi, c'est vrai, une catéchèse un peu plus élaborée, parce que moi, j'avais déjà été en contact avec Jésus à travers la première communion, la confirmation à 10 ans, etc., etc. Comme dit saint Paul, au chapitre 10 de l'Épître aux Romains, et nous allons arriver là à l'importance de cette proclamation du kérigme, et à l'importance de ceux qui le proclament. Saint Paul qui nous dit « Mais comment invoquer le Seigneur sans d'abord croire en lui? Et comment croire sans d'abord l'entendre? Et comment entendre sans quelqu'un qui proclame? Et comment proclamer sans être d'abord envoyé? Selon le mot de l'Écriture, qu'ils sont beaux les pieds des messagers de bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Car Isaïe l'a dit, « Seigneur, qui a cru à ce que nous entendions dire ? » Ainsi la foi naît de ce qu'on entend dire, et ce qu'on entend dire vient de la parole du Christ. La foi naît de ce que l'on entend dire, et ce que l'on entend dire qui est capable de donner la foi, c'est la parole du Christ. Alors, j'en profite, puisque c'est un peu décousu ce que je vous dis, c'est pas grave, pour vous dire la raison pour laquelle nous avons lancé, comme vous le savez, et ce sera officiellement lancé le dimanche du Christ-Roi, 26 novembre, à la cathédrale de Bayonne, une année de la foi et de la peine. Au départ, mon idée, notre idée, c'est des curés même qui m'avaient fait souffler cette idée qu'il faudrait faire une année de la vocation. Bon, ok. Donc on a réfléchi avec le conseil épiscopal. Et puis en réfléchissant, on s'est dit, oui, une année de la vocation, c'est bien. Une année de l'appel, c'est bien. Mais la vocation, c'est l'expression de la foi. Moi, je suis intimement convaincu, quasiment par expérience, que si aujourd'hui nous connaissons une pénurie de vocation, c'est pas seulement à cause d'une société hédoniste, matérialiste, tout ce que vous voudrez. Pourtant, on trouve quand même des jeunes qui sont capables de s'engager pour des grandes causes, et en particulier pour le Seigneur. C'est étonnant même, hein, parce que le Seigneur, il se joue des circonstances du monde. Mais je pense que, pour l'essentiel, si nous connaissons une pénurie de vocation dans nos pays de vieille chrétienté, je ne dis pas dans les pays de jeune chrétienté, nous avons là des témoins qui viennent de ces églises jeunes, hein, qui viennent d'Afrique, et qui savent que là, il y a une espèce de il y a des catéchumènes, il y a une évangélisation, il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui deviennent chrétiens, et donc du coup ça suscite des vocations. Il y a des vocations. Je le dis sans cesse, mais Monsieur Terrier, évêque de Bayonne, que je n'ai pas connu moi, personnellement, entre 1944 et 1957, moi, je suis né en 1957, donc je ne peux pas le connaître, entre 1944 et 1957, il disait « Les vocations sont le bouillonnement de la foi ». On pourrait reprendre les paroles du pape François et dire « Les vocations sont le frémissement de la foi ». Et donc, il faut toujours se dire, si on manque de vocation, c'est peut-être parce qu'on manque de foi. C'est peut-être parce qu'on n'a pas la foi. C'est peut-être parce qu'on n'a plus la foi. Que la foi ne frémit pas en nous. Que la foi ne bouillonne plus dans notre vie. Que nous sommes un peu embourgeoisés, nous qui sommes des vieux chrétiens, et moi le premier qui vous parle. Vous voyez ? Il faut ressusciter la foi dans le cœur des baptisés pour qu'ils puissent à nouveau donner leur vie et inspirer aussi ce don total de sa vie pour le Seigneur. Car donner sa vie pour le Seigneur, c'est un acte de foi. C'est un témoignage de foi. Ça veut dire qu'on peut mettre toute sa confiance en Dieu et non plus en nous-mêmes et même dans nos désirs les plus légitimes d'assumer notre vie humaine, terrestre. Voilà pourquoi on a lancé cette année de la foi. Pour essayer de, à travers un petit itinéraire d'une année, c'est rien du tout, ça va être très très modeste, une petite pédagogie pour ressusciter la foi en nous comme un frémissement, comme un bouillonnement. Et de là, j'en suis sûr, lié à notre prière pour les vocations, qui doit être encore renforcée et qui est présente sans cesse dans la vie du diocèse depuis longtemps, eh bien, suscitera de nouvelles vocations. Au don total de soi dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, mais aussi dans la vie chrétienne ordinaire, dans le mariage chrétien, dans les familles chrétiennes, parce qu'on est tous appelés à se donner. Vous vous rappelez de cette formule du Concile, mais qui reprend les formules de Jésus dans l'Évangile. L'homme étant la seule créature que Dieu a voulu pour elle-même, ne se trouve pleinement que dans le don désintéressé de lui-même. L'homme est fait pour se donner, parce que Dieu est don. L'homme est fait pour se donner, et se donner tout entier. Quel que soit son état de vie, quelle que soit sa vocation. Mais nous ne sommes plus capables de nous donner à Dieu, dans le mariage, dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, parce que nous n'avons pas la foi. Parce que nous ne croyons pas que Dieu est capable de combler notre désir. Parce que nous ne faisons pas suffisamment confiance en ce Dieu qui nous appelle, en nous créant, à nous donner. Il en va donc de notre relation avec Dieu. Vous voyez ? Alors, de manière très schématique, et ce n'est pas forcément dans l'ordre, cette année de la foi, elle sera répartie en trois étapes qui nous permettront de progresser dans la foi en ce qu'elle est. Pour faire court, je pense que la foi, c'est d'abord une connaissance. Et quand je dis connaissance, c'est pas seulement une connaissance intellectuelle, cérébrale. Connaître, ça veut dire naître avec, renaître toujours plus avec Dieu et avec le Christ, à qui nous sommes nés par le baptême. Donc, connaître, une connaissance. Ensuite, la foi, c'est plus qu'une connaissance, c'est l'accomplissement même de cette connaissance, c'est une relation personnelle d'amitié et d'intimité avec Dieu, tel qu'il s'est révélé en Jésus-Christ, donc avec le Christ. Et enfin, la foi, c'est pas seulement une connaissance qui doit aller de l'intelligence au cœur, c'est pas seulement une relation d'intimité avec le Christ qui est vivant, mais c'est un agir. C'est un mode de vie. Et ce mode de vie, c'est agir, il s'accomplit dans le don de soi et dans le témoignage. Dans le témoignage rendu à la foi au Christ. Donc il y aura trois étapes. Première étape, la foi comme connaissance. Comment est-ce que je connais, encore une fois, d'abord avec mon intelligence, mais pas seulement avec mon intelligence, parce que la parole qui est annoncée, elle touche l'intelligence avant de toucher le cœur, forcément. Comment est-ce que je connais Dieu tel qu'il se révèle à moi? Je ne peux pas l'inventer. Il faut que j'entende. Et ce que j'entends vient de la parole du Christ. La foi naît de ce que l'on entend. Ça veut dire que ce qui est premier dans cette... la foi, c'est d'entendre Dieu nous parler. Et où est-ce que Dieu nous parle? Dans sa parole, par dit. Dans cette parole qui n'est pas suffisamment entendue et écoutée. J'entends même quelquefois qu'à la messe, on disait à certaines époques, « Oh, c'est tellement difficile cette parole, les gens vont rien comprendre, on va prendre un message du Secours catholique, ça va être beaucoup plus je rêve. La parole de Dieu, ce que Dieu a envie de nous dire, tu comprends pas? Mais quand tu étais tout petit, comment est-ce que tu as appris à parler? Comment tu as appris à parler? Si tu n'as pas eu une maman et un papa qui te parlaient, tu n'aurais jamais appris à parler. Si on t'avait laissé dans une salle, tu aurais continué à faire t'aurais crié, t'aurais exprimé ta joie, exprimé ta souffrance par des cris, mais tu n'aurais pas parlé. Tu comprenais ce que disaient tes parents? Et pourtant, ils ne bêtifiaient pas avec toi, sans doute. Ils t'ont pas fait, ils t'ont pas lu les pensées de Pascal, ça c'est sûr, quand tu étais tout petit. Mais ils t'ont parlé intelligemment. Et plus ils t'ont parlé intelligemment avec des sujets, des verbes et des compléments, même si ce n'était pas des choses très élaborées, plus vite tu as appris à parler et tu es entré en dialogue. Tu as commencé à assembler des mots. Après, il a fallu que tu ailles à l'école. Il a fallu que tu ailles à l'école pour apprendre la grammaire, pour connaître mieux les subtilités de la langue et mieux l'utiliser pour communiquer avec les autres et communiquer aussi ce que tu avais dans ton cœur, en l'occurrence ici la foi. Donc il faut commencer par écouter la parole de Dieu et pas avoir peur que cette parole ne soit pas immédiatement intellectualisée. Mais à force d'écouter la parole, de laisser la parole me parler au fond de moi-même, je suis capable d'en exprimer l'écho et d'entrer dans un dialogue avec Dieu et avec mes frères. Un écho qui est celui-même de ma vie en réponse à cette parole. Donc la première chose qu'on va faire, qui se fait déjà partout, mais on va essayer de mieux le mettre en place dans nos communautés paroissiales, c'est de créer des petites fraternités informelles qui vont se rassembler régulièrement, ce serait bien de le faire une fois par semaine, ce sera le temps de l'Avent, c'est un temps fort, pour écouter la parole, d'abord silencieusement, au fond de son cœur, laisser cette parole parler. Faire abstraction de mes théories, de mes idées, de ma... Ah, oh, mais moi, je connais bien, exégétiquement, ça veut dire ça. Et puis, d'ailleurs, tout ça, c'est on l'a vu avec les sciences historiques, archéologiques, on s'en fout. Ah, pardon, on s'en fiche de ça. Ce qui est important, c'est comment cette parole me rejoint. Demandez à l'Esprit Saint de vous éclairer. C'est lui qui a inspiré cette parole. C'est lui qui vous la fera comprendre. C'est pas vous seulement avec votre intelligence. On est frappé, hein, quand on s'applique à regarder un passage d'évangile, quand on prend une Bible comme celle que j'ai lue, la Bible de Jérusalem en plus. Il y a des notes en bas de page et il y a des références qui nous renvoient à d'autres textes. On va d'un texte à l'autre, on se promène. Et puis, dès que ça nous parle, on s'arrête. Dès que ça nous parle, on s'arrête. Et si au bout d'un quart d'heure, ça ne nous parle pas, ben, on redemande Esprit Saint, viens essayer de. Qu'est-ce que tu veux me dire là? Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire dans cette parole? Qu'est-ce qu'il veut me dire à moi? Qu'est-ce qu'il veut me dire dans ma vie? Qu'est-ce qu'il veut susciter en moi comme réponse? Puis on repart. Il y a bien un moment où où la parole vient me rejoindre. Elle vient éclairer mon histoire. Elle vient donner un sens à quelque chose qui peut-être est un nœud dans ma vie, voyez. Et je le note et je l'exprime. Et quand on le fait à plusieurs, eh ben, on l'exprime devant les autres. On n'a pas peur de dire à moi. Et c'est fou ce que tout ça va nous évangéliser mutuellement et nous faire grandir dans la communion. Nous faire grandir dans la communion. Parce que celui-là qui est à côté de moi dans ce groupe, qui a une tête qui ne me revient pas, de toute façon, lui, on sait dans quel parti il est et pour qui il vote. Hein. Et puis, t'as vu, dans sa famille, là, ce qu'ils font, là. Mais quand vous êtes là en train d'écouter la parole et de partager l'écho de cette parole, vous connaissez l'autre à un autre niveau, vous le connaissez autrement, vous le connaissez comme aimé de Dieu, vous le connaissez en profondeur, pas selon l'apparence, les étiquettes que nous mettons aux uns et aux autres. Et ça change tout à fait le regard. Et Dieu est en train de nous parler, de nous évangéliser, de nous faire grandir dans la connaissance de lui. Après, on a besoin d'une catéchèse plus élaborée. On a besoin d'un enseignement du magistère. On a besoin de la didaké. On a un catéchisme magnifique, le catéchisme de l'Église catholique. Il y a tout dedans. C'est le catéchisme, le grand catéchisme de l'Église, qui a été mis au goût du jour après le Concile Vatican II, qui a intégré l'enseignement du Concile Vatican II, qui en plus a ajouté ce qu'on appelle la théologie des saints, l'expérience chrétienne des saints, qui nous éclaire beaucoup sur le sens de ce que l'Église nous enseigne. Donc ça, ce sera la première étape. Inviter dans les paroisses à faire des petites fraternités. Mais il y a des groupes qui sont déjà constitués, ils n'ont pas besoin de se reconstituer, ils pourront prendre la parole de Dieu et puis partager la parole. Tu auras peut-être dans un petit livret quelques éléments pour aider à mettre ça en place. Et puis, il y a des paroisses qui proposent une catéchèse pour les adultes. Beaucoup de paroisses dans le diocèse qui proposent aussi une catéchèse pour les adultes, parce qu'il n'y a pas que les enfants. Mais souvent, les adultes, ils ont un niveau catéchétique qui est celui de leur enfance. Mais entre-temps, ils ont quand même développé un peu plus leur esprit, leur cœur, leur vie, et ils sont restés à une connaissance qui est celle d'un enfant. Donc, on approfondit aussi sa foi à partir de la parole. C'est le kérigme. La parole de Dieu, c'est le Christ mort et ressuscité qui transpire à travers toute la Bible. Rappelez-vous, quand Jésus ressuscité marchait sur la route, rejoignait ses deux disciples d'Emmaüs qui étaient complètement découragés parce qu'ils ne savaient pas que Jésus était ressuscité encore. Ils avaient mis toute leur espérance dans Jésus, qui avait été si puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant les hommes et qui était, qui avait été crucifié, qui avait été mis au tombeau. Alors il y a bien quelques femmes qui ont vu des anges qui le disent vivant, mais lui ne l'ont pas vu. Et Jésus leur dit, « Oh, cœur sans intelligence et lent à comprendre ce que disent les Écritures. » Et partant de Moïse et repassant toutes les Écritures, il leur disait, il leur enseignait ce qui le concernait, le mystère de sa mort et de sa résurrection, son kérigme. Le kérigme, il est présent dans toute la parole de Dieu. La première chose qu'on va faire dans la catéchèse pour les enfants, la parole. La parole. Et pour qu'ils puissent entendre la parole, non pas comme une parole humaine, mais comme la parole de Dieu, la prière. La prière. Commencez par le recueillement. Mettez-le en présence de Dieu. On commence par ça. Dieu est un Dieu vivant. S'ils sont baptisés, Dieu habite dans leur cœur. Dieu finira bien par faire la connexion. Ce n'est pas nous qui la faisons, la connexion. C'est lui qui établit la connexion. On commence par prier. Pas seulement des prières prises par cœur, même si c'est très bien, mais un temps de silence, un temps de recueillement, où on essaie de faire parler l'enfant à Dieu, dans son cœur. Et ensuite, la parole. Semer la parole. Le kérigme, c'est la parole qui est proclamée. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et après, on explicite. Par la catéchèse. Peut-être pendant un temps, on fera plus la parole que le catéchisme lui-même. Voyez ? et que ce soit porté par des témoins. Par des témoins. Aujourd'hui, vous serez à nouveau, pour cette année qui vient, envoyé en mission par l'Église. Parce que, comme dit saint Paul, comment croire sans d'abord l'entendre, comment entendre sans quelqu'un qui proclame, et comment proclamer sans être d'abord envoyé? C'est l'Église qui vous envoie, qui vous donne la mission de proclamer l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera sauvé sera baptisé, celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui refusera de croire, bien sûr, si l'Évangile lui était dûment proclamé. Première étape qui pourra être conclue le 21 janvier, qui sera le dimanche de la parole. Vous savez, le pape François a institué il y a quelques années, je crois que c'est le troisième dimanche du temps ordinaire, un dimanche de la parole. Eh bien, récapitulez tout ça, faites une fête paroissiale, faites une récollection paroissiale, faites un dimanche autrement, comme certains l'appellent, vous voyez, où on a tout le monde et on essaie de rendre compte de la manière dont la parole a suscité en nous le frémissement de la foi, le bouillonnement de la foi. Ensuite, deuxième étape, qui commencera le mercredi décembre, c'est pour le carême, jusqu'à Pâques. Le carême, c'est souvent un temps fort, on fait plein de choses. Eh bien, on va essayer on continue à faire ce qu'on fait déjà. La parole, le kérigme, c'est pas au début, puis après c'est fini. Le kérigme, c'est toujours. On a toujours besoin de réinitialiser notre rencontre avec le Seigneur. On a toujours besoin de réinitialiser notre foi comme acte d'adhésion à quelqu'un qui me libère, qui me sauve, qui m'unit à lui. Donc la deuxième étape, c'est la foi comme relation d'intimité avec le Seigneur, comme union avec le Seigneur, que l'on promeut comment? Par la prière, à partir des paroles, sans doute. Mais la prière est la prière d'oraison, ce que sainte Thérèse d'Avila appelait ce colloque intime avec Jésus-Christ dont je me sens aimé. Ce colloque intime avec Jésus-Christ dont je me sens aimé. La prière intérieure, c'est faire l'expérience de cet amour de Jésus pour moi, de cette intimité avec lui, qui est capable d'irriguer toute ma vie. Toute ma vie sera irriguée par cette relation d'amitié et d'amour avec le Seigneur. On tâchera de proposer à telle ou telle communauté, je pense au prémontré de Sarens, je pense à Cotopaïs, hein, qui est de spiritualité ignatienne, je pense au Carmel que nous avons, et bien de proposer des journées de récollection ouvertes à tous, avec des dates, on verra où on va, pour essayer de redécouvrir cette relation d'intimité avec le Seigneur à travers l'oraison. Mais si nous promouvons cette intimité avec le Seigneur par l'oraison, qui naît de la parole toujours, hein, et qui est approfondie aussi par la connaissance approfondie de notre foi, eh bien, il faut la défendre jalousement, cette foi comme intimité avec le Seigneur. Il faut la défendre contre nos ennemis, qui ne sont pas des ennemis de chair et de sang, comme dit saint Paul, chapitre 6, de l'Épître aux Éphésiens, mais qui sont ces puissances qui habitent dans les espaces célestes et qui veulent nous détourner de Dieu. C'est le combat spirituel. Il nous faut nous défendre contre les assauts de la tentation, de la distraction, de tout ce qui nous détourne du Seigneur, pour pouvoir défendre cette foi comme intimité avec lui. Et pour défendre jalousement, il faut combattre. Je le dis sans cesse, mais la vérité doit toujours être répétée. Dans l'exhortation apostolique sur l'appel, sur la vocation dans le monde actuel, la vocation à la sainteté dans le monde actuel, Gaudete et Exultate du pape François, au début du chapitre 5, il dit, je le répète, la vie chrétienne est un combat permanent, il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable et annoncer l'Évangile. Vous voyez ? C'est lié à la mission d'annoncer l'Évangile, de proclamer l'Évangile à toute la création. Les tentations du diable, et il dit qu'elles sont ce qu'on doit combattre. D'abord, c'est la mondanité, il dit. on ne combat pas la mondanité, mais on est des mondains, médiocres et abrutis, c'est ce qu'il dit exactement dans son texte. Ensuite, ce sont nos inclinations, chacun à la sienne. On mourra avec, hein, mais on ne peut pas s'en accommoder. Il faut les combattre. Chacun sa conscience. Pour les uns, c'est la luxure, pour les autres, c'est la colère, pour les autres, c'est la jalousie, pour les autres, c'est l'orgueil, et sais-je encore. Vous connaissez les sept péchés capitaux. Mais après, il dit, ça ne suffit pas. Il ne s'agit pas de combattre seulement le monde ou l'esprit du monde et nos inclinations mauvaises, mais il s'agit de combattre le diable, qui n'est pas un mythe, qui n'est pas une représentation, qui n'est pas un symbole, je vous dis ce que dit pas François là, je suis en train de répéter de mémoire, mais hein, qui est une personne que Jésus a combattue, que Jésus a vaincue. Pas de problème, il est vaincu. Mais il a la permission quand même de venir nous titiller, nous décourager, nous détourner, hein, de notre confiance dans le Seigneur, en particulier à travers les épreuves de notre vie ou les passages à vide, hein, de notre foi. Donc, on centrera cette étape, sans doute sur l'apprentissage de l'oraison, mais aussi sur le sacrement par excellence du combat spirituel, qui est le sacrement de pénitence et de réconciliation, qui a déserté nos communautés. On n'approche plus de cette fontaine de la miséricorde, où l'on peut faire l'expérience personnelle, vous m'entendez, d'un Dieu qui m'aime inconditionnellement, qui ne me juge pas, qui ne me condamne pas. C'est pour ça qu'il a institué ce sacrement du pardon, pour que je puisse aller à lui dans une relation personnelle d'amitié avec lui, dire « Mais Seigneur, je ne me suis pas conduit comme ton ami. » Et du coup, je ne me suis pas conduit comme l'ami de mes frères. Eh bien, je viens de demander pardon parce que moi, je n'y arrive pas tout seul. Mais moi, je t'aime. J'ai donné ma vie pour toi. C'est le kérigme en acte. Le kérigme en acte. Jésus qui est mort et ressuscité, qui vient se mettre, s'immiscer dans ma mort, celle de mon péché, pour me ressusciter à une vie nouvelle. Et nous n'usons pas de ce sacrement. Nous n'usons pas de ce sacrement. Le sacrement du combat spirituel, pour faire même l'expérience de cet amour miséricordieux. On dit même que la répétition inlassable de mes péchés, parce que j'imagine bien que quand je vais me confesser, il ne faut pas que j'invente à nouveau un péché pour me confesser, c'est toujours les mêmes. Hein. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, pendant longtemps, c'est un peu toujours les mêmes, quand même. Hein. Alors, de temps en temps, je suis très surpris de voir que, ah ben tiens, ça, je ne le fais plus. Mais attention, hein, parce que on peut revenir au détour du chemin. Hein. Bon. Mais la répétition inlassable de mes péchés n'est que l'envers de la répétition inlassable d'un Dieu qui me dit « Je t'aime, tu es précieux à mes yeux et je t'aime », dit le Seigneur dans le prophète Isaïe. « Et je t'aime malgré ton péché, et même je t'aime à cause de ton péché, parce que sans mon amour, tu ne peux pas être libéré. » Donc c'est à cause de ton péché que je t'aime. Alors que ton péché devrait me répugner, moi qui suis sans péché, qui suis immaculé. Eh bien non, à cause de ton péché, je t'aime et je te l'ai prouvé. Je suis mort sur la croix, j'ai vaincu la mort, je suis ressuscité. C'est extraordinaire. Alors on essaiera de donner une petite pédagogie pour retrouver au sein de nos communautés paroissiales non seulement la célébration personnelle, parce que c'est toujours personnel pour finir. L'absolution est toujours individuelle, sauf en cas de naufrage du Titanic. Bon, c'est sûr que là, il faut donner l'absolution collective, parce que mais celui qui est dans qui est rescapé, qui a commis un péché mortel, il faut qu'il aille se confesser dès qu'il reviendra sur Terre. Hein. Bon. Mais aussi la dimension communautaire qu'on ne sait pas faire. Je ne parle pas d'absolution collective, ça maintenant c'est fini. Hein. Vous savez, on ne le fait plus. Parce que l'Église nous l'a dit, c'est tout. Mais, et on comprend très bien pourquoi. Mais la célébration communautaire du pardon. Je suis pardonné, mais je suis porté par une communauté. Moi, je suis toujours touché par cet évangile du paralytique, vous savez, qui est porté par quatre hommes. Et lui, à la limite, il ne peut pas se déplacer, c'est forcé, il est paralysé. Les quatre hommes arrivent, et puis, il ne peut pas arriver jusqu'à Jésus, il y a tellement de monde devant la porte, alors... passe au-dessus de là, du toit, il défend les branches, et puis hop, il va descendre devant Jésus, paf. Et ils se disent, il va le guérir, il en a guéri tellement, il va le poser les mains, puis tout de suite il va se lever, lève-toi, il va. Et non, Jésus lui dit, quand il le voit, mais Jésus y voit beaucoup plus profond que nous. Il lui dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de cet homme face à Jésus? Peut-être justement face à Jésus, dans son cœur, il est en train de dire, bah, « Je suis pécheur, pardonne-moi. » En tout cas, Jésus dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Alors les grincheux, les pharisiens grincheux qui sont autour et qui disent, « Mais comment il pardonne les péchés? Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés, il blasphème !» Et Jésus qui lit dans leur murmure intérieur, pour que vous sachiez, qu'est-ce qu'il y a de plus facile à dire à cet homme? Tes péchés sont pardonnés? Ou prends ton banc, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, il se tourne vers le paralytique et lui dit, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Et aussitôt il se leva. La puissance de la parole de réconciliation du Seigneur qu'il confie à son Église, qui est capable de réparer une âme blessée par le péché, mieux encore qu'un corps atteint de paralysie. C'est plus puissant encore que de dire à cet homme, lève-toi et rentre chez toi. Mais ce qui est beau, c'est que c'est à cause de la foi, parce que l'évangéliste dit, voyant la foi de ces hommes, il dit, tes péchés sont pardonnés. Est-ce qu'on ressent ça quand on fait une célébration pénitentielle, qu'il y a une communauté de prière autour de nous, qui chante la louange de Dieu, qui supplie le Seigneur de pardonner les péchés de mes frères, en même temps qui supplie de pardonner mes péchés, et qui, quand je vais voir le prêtre pour demander pardon et obtenir l'absolution, continue de chanter et m'enveloppe de toute sa foi exprimée dans la prière, et qu'ensuite on se rassemble pour rendre grâce au Seigneur pour ce pardon, cette réconciliation, et qui fait grandir l'Église. C'est vrai que quand je me confesse tout seul avec un prêtre, et heureusement qu'il y a aussi des possibilités de se confesser individuellement, mais je me réconcilie non seulement avec Dieu, mais avec le prêtre, non seulement avec Dieu, mais aussi avec l'Église, le prêtre, parce qu'il représente à la fois Dieu et l'Église, le prêtre. Voyez. Et quand il y a une communauté autour de moi, c'est plus significatif encore. Alors, on va proposer dans cette période, non seulement une petite pédagogie pour retrouver le sacrement de la pénitence et la réconciliation, mais aussi pour le célébrer un peu plus communautairement. Et on essaiera d'honorer ce que le pape aussi, François, avait institué il y a quelques années, qui est encore honoré dans quelques paroisses, mais souvent oublié, les fameux 24 heures pour le Seigneur. C'est du vendredi au samedi de 5e semaine de carême, je crois. 24 heures pour le Seigneur, où on fait passer des groupes de prière, ça sacrement exposé, ça dure 24 heures, non-stop, et puis il y a des prêtres qui sont toujours là pour confesser. Puis on peut même faire une célébration pénitentielle, une célébration communautaire du pardon. Et enfin, troisième étape, je termine, à partir de Pâques jusqu'à la Pentecôte, tout le temps pascal, ce sera la foi comme une vie, comme un don de soi. Je termine avec cette belle définition très brève, mais qui mériterait d'être explicitée, de saint Jean-Paul II, un jour devant des jeunes, je ne sais plus où, mais il disait ceci, « La foi, c'est un don de Dieu qui entraîne le don de la personne tout entière et qui trouve sa perfection dans l'amour. » Tout est dit. Tout est dit. Un don de Dieu qui entraîne le don de la personne tout entière et qui trouve sa perfection dans l'amour. La foi, c'est à la fois un chemin et une vie, dit le pape Benoît XVI quelque part. Un chemin et une vie. Et cette vie, c'est une vie donnée. C'est le don de soi. L'amour, c'est le don de soi. Donc, cette troisième période, elle sera tournée davantage vers l'appel vocationnel, vers la vocation, qui est répondre à un appel à donner sa vie au Seigneur. Donc on priera davantage pour les vocations, on se recentrera sur l'Eucharistie. Le temps pascal, c'est le temps par excellence de l'Eucharistie, et qui est le don de Jésus rendu présent, auquel je m'unis à travers la communion eucharistique et à travers l'adoration, où je prolonge cette communion comme union à ce don total que Dieu fait de sa vie, pour que moi-même je devienne Eucharistie, c'est-à-dire corps livré, sang versé, vie donnée pour mes frères. Et de quelle manière? Eh bien, on insistera sans doute un peu plus sur les vocations spécifiques au sacerdoce et à la vie consacrée. Et il y aura un pèlerinage, une marche itinérante à travers tout le diocèse, avec des étapes dans des paroisses et des lieux saints, depuis le dimanche des vocations, je ne sais plus quel jour c'est peut-être le 21 avril, qu'importe, jusqu'au 18 mai, veille de Pentecôte, où l'on fera une grande journée diocésaine, diocèse en fête, où l'on rendra compte de tout ce cheminement de foi, comme une sorte de reddition, comme on dit dans les étapes du catéchuménat, on rendra compte de l'impact de notre foi dans notre vie, de ce que nous croyons dans notre vie, on verra de quelle manière on le fera, et puis il y aura des témoignages de vocation spécifique, et dans cette messe de conclusion de la vigile de Pentecôte, où je confirmerai les adultes, et bien on fera un appel vocationnel. Un appel vocationnel. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui à partir du kérigme. Merci de votre attention.